Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Les enfants aiment trop jouer à se faire peur pour y renoncer à l'âge adulte. Ainsi, Jean-Christophe Granger écrit-il des romans d'épouvante, hypnotiques, mis en scène par les pires pulsions humaines. Tous ces thrillers, depuis Les Rivières Pourpres, sont des best-sellers traduits dans une trentaine de langues. Imaginez, 20 millions de romans vendus. Le Concile de Pierre, L'Empire des Loups, Le Serment des Lames, Miserere, La Dernière Chasse, déjà 15 romans auxquels s'ajoutent Les Promises, qui paraissent chez Albin Michel et qui poussent la délectation de la peur à une jubilation extrême. Bonjour et bienvenue Jean-Christophe Granger.
Bonjour.
Cher Jean-Christophe Granger, combien de jeunes femmes avez-vous assassinées de manière atroce depuis que vous écrivez des thrillers ?
Ah, écoutez, je compte plus parce qu'à chaque fois que je suis à l'intérieur de mon roman, c'est celle de mon roman qui compte. Mais si on les met les unes après les autres, ça fait un certain nombre.
Ouais, un certain nombre. Bon, à l'époque où vous faisiez des reportages pour, par exemple, National Geographic, vous aviez déjà blotti dans votre imaginaire toutes ces scènes de meurtre qui font une sorte d'art funeste du sadisme, du vice et de la folie.
Le goût de la peur, le goût de l'horreur, en fait, il m'est tombé dessus dès mon enfance. Je peux dire que j'ai toujours fait des cauchemars, j'ai toujours eu peur. Quand je suis devenu adolescent, j'en ai fait plutôt un objet d'esthétique, un objet de plaisir. J'adorais les films d'épouvante, les livres gothiques. Ouais. Tout ce qui pouvait faire peur, c'était ce que je préférais. Donc, assez naturellement, quand j'ai commencé à écrire, donc des romans policiers, je savais que ça serait des romans policiers tendance épouvante, tendance horreur quand même.
Mais alors, dans la vie vraie, de quoi avez-vous peur, Jean-Christophe Granger ? Rien ne vous effraie ?
Je crois qu'il faut dire d'abord que dans la vie vraie, je suis tout le contraire de mes livres. Je suis quelqu'un de très souriant, équilibré.
L'homme le plus doux, le plus pacifique, le plus équilibré qui soit.
Mes enfants, ils sont toujours très surpris de savoir que j'écris des livres horribles. Parce que dans la vie, je n'ai rien à voir avec cette atmosphère. Et je crois que c'est assez logique. Je crois que justement, toutes mes idées noires passent dans mes livres. Et que c'est une forme de catharsis, d'exorcisme.
Ouais, d'exutoire.
Et que cette profondeur noire que j'ai en moi, elle s'exprime dans les livres et finalement j'en suis débarrassé dans la vraie vie.
Bon, la peur c'est toxique, mais votre métier effectivement c'est d'en faire presque un objet esthétique, voire une jouissance, c'est ça ?
J'espère bien que le lecteur en tire un grand plaisir. Vous savez, vous parliez des enfants tout à l'heure, ça m'a fait plaisir parce que pour moi, mes romans et tout ce genre de thriller, c'est un peu des contes pour adultes, c'est-à-dire ouais, mes ouais. enfants... Quand ils étaient petits, ils aimaient que je leur raconte des histoires qui faisaient peur. Mais en même temps, ils savaient que c'était pour de faux. Ils étaient dans mes bras, au chaud,
avant
de s'endormir.
Mais vous ne leur racontiez pas les vôtres, en tout cas.
Non, les miennes, c'est trop dur.
Voilà.
Mais une fois adulte, je pense que les gens qui ouvrent mon livre sous leur couette, ils retrouvent ce frisson un petit peu jouissif d'avoir peur, tout en sachant qu'évidemment, ce n'est qu'un roman, ce n'est pas la vraie vie.
Mais alors, pour avoir choisi ce genre littéraire, auriez-vous des comptes à régler avec vous-même ?
Des comptes à régler avec moi-même, non, mais avec l'espèce humaine, oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, la peur et la terreur même face à l'homme m'a pris très tôt. Je me souviens d'avoir vu par exemple ce film terrifiant documentaire d'Alain René, Nuit et brouillard, qui est un film documentaire sur le nazisme, un des premiers. Et je me souviens d'un choc dont je ne me suis jamais remis. Je ne pouvais pas comprendre enfant que des hommes avaient fait ça à d'autres hommes et que finalement l'homme était une espèce perverse et cruelle et qui pouvait prendre du plaisir à torturer et à tuer les autres hommes. Vous savez, parfois il y a un malentendu parce que les gens se disent Granger, il parle beaucoup de violence, finalement c'est complaisant, il aime ça. Mais vous écrivez toujours sur ce que vous n'aimez pas, sur ce qui vous pose un problème. C'est ça l'essence de la littérature. Vous écrivez parce que vous éprouvez le besoin d'écrire, de vous exprimer sur quelque chose que vous ne comprenez pas, ou qui vous fait peur, ou qui vous fait souffrir. Vous écrivez jamais sur le bonheur, hein, jamais sur des choses qui vont bien. C'est pas du tout un thème de littérature.
Le bonheur, ça se vit. Voilà.
Moi, j'écris beaucoup, exactement, le bonheur, ça se vit. Et les horreurs, ça, on en parle et on essaye de les canaliser, de les cadrer, et moi c'est dans des livres, mais c'est une espèce d'alchimie intérieure qui essaye de transformer cet objet de terreur en objet de plaisir, parce que finalement, à l'arrivée, c'est un objet esthétique, les gens l'achètent, ils le savourent. Comme moi, je regarde des films d'horreur qui sont censés faire peur, mais qui en fait me font plaisir.
Alors Jean-Christophe Granger, il y a 3 ans, vous disiez au Journal de Montréal, si je trouvais le courage de me lancer dans la rédaction d'un ouvrage historique, eh bien j'écrirais sur le nazisme, que j'ai beaucoup étudié, et qui fut un vivier pour les pires pulsions humaines. Or, avec ce nouveau roman, justement, Les Promises, qui paraît chez Albin Michel, vous mêlez le cauchemar du Troisième Reich à une enquête sidérante sur les meurtres d'épouses de personnalités des hautes sphères nazies, des femmes en théorie protégées et insouciantes, mais poursuivies dans leur sommeil par la terreur en fait qu'elles avaient du parti nazi qui faisait un véritable travail souterrain de dictature des consciences. C'est ça ?
Absolument. Il existe un livre de l'époque d'une psychanalyste de Berlin qui a collecté les rêves de son entourage parce qu'elle avait remarqué que même les personnes qui vivaient bien apparemment le régime nazi,
même
les
puissants du Troisième Reich,
au moment du sommeil, ces personnes faisaient des cauchemars, toujours sur fond de nazisme, toujours sur fond d'oppression, sur fond de terreur du système. Et voilà. Donc ça m'avait beaucoup intéressé parce qu'en effet, c'est la preuve que la dictature était tellement lourde et imprégnante qu'elle avait réussi à pénétrer même l'inconscient collectif et que les gens rêvaient du nazisme. Alors j'ai trouvé qu'il y a ce tueur très mystérieux dans mon livre qui, avant de frapper, apparaît en rêve à ses victimes. Donc les victimes rêvent de cet homme qui semble porter un masque de marbre et finalement elles vont finir par être tuées par cet homme de marbre.
Métaphore qu'on découvre dans Les Promises. Est-il vrai, Jean-Christophe Granger, que Robert Ley, qui fut l'un des organisateurs du Reich, en fait, et qui fut le chef du Front du Travail sous Hitler, déclara « La seule personne en Allemagne qui a encore une vie privée est celle qui dort. Nous allons maîtriser à ce point l'espace mental des Allemands qu'il ne leur restera plus, comme moment de liberté, que le rêve. »
C'est ce qu'il disait, mais en fait, le nazisme a été plus loin, puisqu'il a réussi à percer cette dernière résistance qui était le rêve, et à s'insinuer comme ça dans les consciences des gens quand ils dormaient. Moi, je trouve que cette idée est très intéressante, parce que j'ai toujours été intéressé par les rêves, et cette espèce de fusion maléfique entre les rêves, et bien sûr les cauchemars, et le nazisme, c'est quelque chose qui est, je trouve, très fascinant.
Il ne faisait pas beau être psychanalyste sous Hitler. Cette psychanalyste qui a recueilli justement les rêves de toutes ces femmes d'hommes puissants du Reich, elle n'a pas été envoyée dans les camps.
Écoutez, c'est assez incroyable. En fait, elle était devenue coiffeuse. Elle coiffait tous les gens de l'immeuble et les voisins. Enfin, elle était juive. Hein. Alors donc, ils avaient une vie très retirée. Et elle avait soigneusement caché chaque page de son livre qu'elle a pu récupérer après la guerre.
Alors, ces grandes dames du Reich, elles font des cauchemars, mais surtout, ces femmes se font assassiner de la manière la plus atroce qui soit. Et pour ça, on peut vous faire confiance, Jean-Christophe Granger. Et l'enquête, qui va donc démarrer au début des Promises, est menée par 3 personnages que tout oppose, un SS, un psychanalyste et une psychiatre. Et en fait, cette enquête, il faut la mener rapidement, car le parti nazi ne saurait tolérer un être incontrôlable dans un univers où tout est contrôlé. Et là, je précise qu'il ne s'agit pas du tout de rendre la justice, il s'agit uniquement de rétablir l'ordre, c'est ça ?
Oui, bien sûr, puisque ce tueur s'en prend aux femmes de dignitaires nazis, il s'en prend au sommet de la pyramide nazie, c'est absolument intolérable. Et cette idée, comme vous venez de le dire, qu'un tueur peut passer à travers les mailles du filet, alors qu'à l'époque, Berlin, par exemple, était un espèce de nid d'indicateurs. Dans chaque immeuble,
il
y avait un indicateur.
C'est ce que vous nous expliquez, dans chaque quartier, chaque immeuble.
Ça semble totalement impossible qu'un type puisse échapper à toute identification, à tout témoignage. Donc, l'enquête est confiée à un SS, qui est en fait un officier de la Gestapo.
Et dont vous dites d'ailleurs la Gestapo, qui elle est connue pour arrêter les victimes et pas les coupables,
exactement,
n'est-ce pas ?
Et lui, il est habitué à arrêter donc les innocents en montant des dossiers de toutes pièces. Et tout d'un coup, il va devoir poursuivre un vrai tueur. Et là, il est plutôt désorienté parce que il n'a aucune connaissance finalement en enquête criminelle et encore moins de connaissances en matière de psychisme,
voilà, de
sadique,
psyché, enfin, de psychologie. De...
Comme il dit à un moment donné, il n'a pas de connaissances en psychisme sadique, sauf que ses chefs sont tous des sadiques,
voilà.
Lui-même en est un, tous ses collègues
mais
en
lui,
sont.
Mais lui, il applique.
C'est ça qui m'intéressait, faire un roman de tueur en série à Berlin à cette époque, c'est mettre, si vous voulez, 2 échelles en perspective. mon histoire d'enquête qui poursuit un tueur qui n'a tué finalement que 4 femmes, en perspective avec le régime nazi qui lui tuait des centaines et des milliers de personnes
des
chaque
millions.
Mois.
Juste avant de faire une pause très courte, Jean-Christophe Granger, il paraît que votre mère a toujours été votre première lectrice. Aucune des tortures qui depuis 27 ans accompagnent les meurtres dans vos romans ne l'ont effrayée ?
Ah si, bien sûr. En plus, vous savez, ma mère, comme mes épouses successives, c'est pas leur tasse de thé, les thrillers et les histoires d'horreur. Donc elles le lisent parce que c'est moi. Mais en fait, elles ont un double choc. Elles ont le choc de mon livre, mais aussi le choc du genre qu'elles connaissent mal et qui tout d'un coup déferle comme ça avec toute sa violence. Alors ma mère, à chaque fois, elle dit oh, « c'est terrible, hein. Ton livre, il est terrible ». Et on ne sait pas si elle veut dire qu'il est passionnant ou s'il est juste... terrible.
Mais c'est ce qu'elle a dit une fois de plus pour les promises.
Ah oui, elle a dit incroyable, sensationnel, mais terrible.
Je confirme. On retrouve tout de suite Jean-Christophe Granger.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le nouveau thriller de Jean-Christophe Granger a pour titre Les Promises. Il paraît chez Albin Michel et fait de la terreur un art virtuose. Alors Jean-Christophe Granger, la terreur que vous distillez dans tous vos romans, eh bien, vous l'avez éprouvé, enfant. Cette terreur a infusé même toute votre enfance, car votre père était fou, traité régulièrement en hôpital psychiatrique. Et quand il en sortait, il me paraît qu'il rôdait de façon menaçante autour de vous. Ce père, c'était comme un fantôme maléfique.
Oui, c'était un fantôme, d'autant plus que personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. C'était une présence, si vous voulez, mais quand je suis né, ma mère a divorcé, mais le divorce a duré très longtemps. Mais de toute façon, les juges avaient déclaré qu'ils ne devaient plus me voir. Donc, j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère, qui en parlaient de temps en temps, et à mon avis même souvent à voix basse. Mais pour m'épargner, on ne m'en parlait jamais. Donc ça a été plutôt une absence qui était assez lourde.
Mais une absence menaçante.
Une absence qui était une forme de présence assez lourde, assez anxiogène. Et moi, j'ai grandi très heureux. Hein, mais bien sûr, à un autre niveau, l'inconscient, disons, cette peur s'exprimait. Par exemple, je faisais énormément de cauchemars.
Ouais,
j'ai toujours
ouais.
été très peureux. Et toujours avec cette ambivalence propre aux enfants... très attiré par tout ce qui faisait peur.
Bien sûr.
J'étais attiré par les trains fantômes, j'étais attiré par les films d'horreur, et évidemment avec aussi ce goût, cette délectation de l'interdit.
Mais je reviens à votre père, parce que comme de temps en temps il sortait de l'hôpital psychiatrique, et qu'on le disait violent et totalement imprévisible, est-ce que cet homme c'était une menace que vous redoutiez par exemple sur le chemin de l'école ? Est-ce que vous aviez envie en même temps de le rencontrer, d'avoir un face-à-face ? Cet homme que vous imaginiez forcément, sans jamais l'avoir vu, ni lui avoir parlé ?
En réalité, pas du tout. J'ai grandi sans père et je ne me suis jamais posé de questions sur mon père. C'était un état de fait, c'était comme ça. Bon, je n'avais pas de père. C'était un peu comme s'il était mort. Mais en revanche, j'ai vécu toujours avec le reflet de cette peur chez ma mère et chez ma grand-mère, si vous vouliez. On ne m'en parlait pas, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui oppressait tout le monde. Et les enfants sentent ce genre de choses dont on ne parle pas. Et j'ai grandi avec ça. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais éprouvé de peur concernant mon père. C'était quelqu'un d'absent. On ne m'expliquait même pas pourquoi il n'était pas là. Il n'était pas là, c'est tout.
Mais confusément, vous ressentiez la menace, puisque vous étiez témoin de la peur de votre mère et votre grand-mère. Donc on doit quand même s'inventer une étrange grille de lecture du monde quand on grandit comme ça.
Encore une fois, je pense que toute cette peur et cette menace s'exprimaient plutôt dans les cauchemars. Je ne veux pas dire que j'avais anormalement des cauchemars, mais c'était quand même des cauchemars, des peurs qui, oui, alors là, tiraient leur source, je pense, de ces choses que j'avais sans doute entendues très petit ou entreaperçues très petit. Mais je faisais des cauchemars à base toujours d'enlèvement d'enfants, d'intrus dans la nuit, enfin ce genre de choses. Mais à l'état de conscience, la journée, tout allait bien.
Est-ce que vous étiez un grand lecteur quand vous étiez enfant, adolescent, Jean-Christophe Granger ?
J'étais un grand lecteur. J'ai toujours, comment dirais-je, été attiré, donc encore une fois, par ce genre de domaine fantastique, terrifiant. Et j'ai beaucoup lu dans ce domaine-là. Mais je dois dire une chose, pour être tout à fait sincère, que la lecture a toujours été un plaisir, mais aussi un effort. C'est-à-dire que...
Tiens donc !
Comment vous dire ? quand j'étais petit, bon, comme tous les petits enfants, ils connaissent ça, quand on lit un livre, on regarde toujours dans le coin à droite à quelle page on en est quand même. Bon. Et puis ensuite, quand j'étais adolescent, j'ai voulu lire Dracula, Frankenstein, qui sont des livres assez ennuyeux pour dire la vérité.
Ouais.
Et pareil, je regardais toujours un petit peu dans le coin à droite. Et puis ensuite, quand j'étais plus grand, j'ai fait des études de lettres. Alors là, je lisais Proust.
Vous êtes pris, paraît-il, d'une passion farouche pour Gustave Flaubert.
J'ai travaillé beaucoup sur Gustave Flaubert pour mon mémoire de maîtrise, toujours avec l'œil sur la page de droite pour savoir où j'en étais, parce que les livres, ça se tire. Et puis, presque à 30 ans, j'ai commencé à devenir grand reporter.
Ah mais vous allez trop vite en besogne.
Non,
parce
non,
que
non,
là,
mais
vous
je
sautez,
vous dis juste une chose.
Vous sautez une vie importante.
J'ai commencé à lire des romans policiers.
Oui.
Et d'abord, ces romans n'étaient pas du tout comme je pensais, écrits en argot et très vulgaires, pas du tout. Et surtout, je ne regardais plus à quelle page j'en étais. C'était des romans si passionnants qui vous absorbait, qui vous aspirait, et vous étiez tenu par la lecture, tenu en haleine. Et quand j'ai commencé à lire ces romans, j'ai dit, c'est ça que je veux faire.
Alors, je disais que vous alliez un peu vite en besogne, parce que avant l'âge de 30 ans, donc avant de découvrir cette littérature-là, avec une licence puis une maîtrise de lettres passée à la Sorbonne et portant sur l'univers de Flaubert, eh bien, franchement, on n'aurait pas pu imaginer que dans les années 80, vous choisissiez la pub pour gagner votre vie. La pub, c'était une opportunité, c'était un piston, c'était une paresse lucrative. C'était quoi ?
C'était un piston. Si vous voulez, en fait, quand vous sortez de la fac avec une maîtrise de lettres, c'est en gros comme si vous n'aviez rien du tout dans votre poche, quoi, sur le marché du travail.
D'accord.
Donc, grâce à des pistons assez lointains, mais quand même présents, j'ai pu commencer dans les agences de publicité à travailler. Ça a été un traumatisme terrible pour moi, parce que d'abord, c'est un métier que je n'ai pas du tout aimé. Et c'est surtout un métier qui me forçait à renier tout ce que j'avais aimé à la fac. C'est-à-dire, par exemple, toute la réflexion intellectuelle sur des grands auteurs et tout ça. Dès que j'ai mis les pieds dans une agence de pub, on m'a dit « Attends, tout ça, t'oublies. Hein. Maintenant, c'est sérieux, on gagne notre vie. Donc, tu vas me faire un public reportage sur les anti-cernes,
ouais.
un petit texte sur les anti-vergétures, et tu vas arrêter de penser à Flaubert. »
Mais attendez, c'était surréaliste pour vous.
C'était surréaliste
parce
que j'avais...
Vous parliez cosmétique, vergeture et crème anti-ride.
Largement teinté de malchance d'être tombé dans une agence qui, justement, était spécialisée en cosmétique. Inutile de vous dire que c'était un domaine que je maîtrisais pas très bien. Je ne savais pas ce que c'était une vergeture, par exemple. On m'a dit, les vergetures, ah bon, mais il va falloir m'expliquer quand même, qu'est-ce que c'est que ces choses étranges.
Donc vous avez demandé à votre fiancée de l'époque.
Oui, et puis j'ai eu très peur parce que j'ai compris une chose qui est vraie, et ça c'est mon idée depuis toujours, c'est qu'à la fac et même à l'école, on vous parle de Balzac, on vous parle de Flaubert, on vous parle de Baudelaire, on vous parle de Rimbaud, qui ont toujours lutté contre l'ordre bourgeois et contre cette société capitaliste et mercantile. Et évidemment, c'est les gens que vous étudiez, donc vous vous dites c'est eux qui ont raison, et c'est la société ne veut pas de tout ce système qui est complètement misérable et mesquin.
Oh,
et puis,
en dehors
vous arrivez,
des murs de la Sorbonne, ça fonctionne autrement.
Quand vous arrivez dans le monde du travail, on vous dit non, mais on t'a raconté des blagues. La vraie vie, maintenant, c'est justement l'ordre bourgeois, l'ordre mercantile. Et maintenant, il va falloir que tu parles des anti-vergetures parce que c'est ça qu'ils vendent. Alors,
bon,
ça a été un choc pour moi.
J'imagine.
Ça a été un choc.
Mais alors,
d'ailleurs, j'ai très peu fait de pub. Hein.
D'accord,
j'ai
alors justement,
tout de suite, hein.
Sur quel déclic, Jean-Christophe Granger, avez-vous quitté le monde de la pub pour travailler avec une agence photo dont certains photographes partaient en Afrique, en Asie, pour chasser les images, par exemple, de populations méconnues?
Alors écoutez, je vais vous dire la vérité, le déclic, c'est qu'en plus de faire les textes anti-vergétures, je faisais les factures. Donc quand j'ai vu combien on vendait mes petits textes, j'ai tout de suite dit, je vais me mettre à mon compte, je vais me mettre en freelance, parce que je souffre en écrivant ça, mais si c'est payé autant, okay, je veux bien le prendre dans ma poche. Donc je me suis mis à mon compte, et de fil en aiguille, quand vous êtes freelance, vous rencontrez toutes sortes de gens très différents, qui ont besoin de textes, qui ont besoin de plumes, et par chance, enfin, après avoir fait pas mal de brochures sur les robinets et les saucissons, j'ai rencontré des photographes, de très grands photographes qui venaient des grandes agences de l'époque, de Sigma, de Gamma, qui avaient monté leur propre agence et qui cherchaient une plume à l'époque pour écrire des textes alors qu'ils revenaient de reportage. Eux, ils y allaient seuls, ils revenaient et ils me racontaient ce qu'ils avaient fait. Et moi, j'écrivais un texte qu'on donnait, si vous voulez, au magazine pour vendre le reportage. Mais très vite, avec un des photographes qui s'appelait Pierre Perrin, avec qui je m'entendais très bien, on a décidé de renouer avec la grande tradition journaliste-photographe et de partir vraiment tous les deux en tandem à l'autre bout du monde pour faire des sujets où là je serais présent, je pourrais interviewer les gens et puis faire un texte beaucoup plus sérieux, beaucoup plus nourri, parce que j'aurais fait le reportage avec Pierre.
Exactement.
Et donc, il m'a tout appris, il m'a emmené avec lui.
Eh bien, c'est ce qu'on va évoquer juste après cette pause, puisque pendant des années, vous allez courir le monde, l'observer au plus près avec le photographe Pierre Perrin. Allez, on en parle tout de suite avec Jean-Christophe Granger.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Je reçois le parrain de la littérature d'épouvante en France, le maître du thriller, Jean-Christophe Granger, dont tous les romans depuis Les Rivières Pourpres sont des best-sellers tout autour de la planète. Ainsi en sera-t-il pour Les Promises, qui paraît chez Albin Michel. Alors Jean-Christophe Granger, vos fidèles lecteurs ignorent peut-être, ignorent sans doute qu'avant de devenir un maître absolu du thriller, vous avez pendant des années, plume à la main, crapahuté dans les endroits les plus improbables de la planète avec le photographe Pierre Perrin pour livrer d'impressionnants reportages, par exemple au Sunday Times, à National Geographic ou encore à Paris Match. J'aimerais bien savoir, en fait, quels sont les voyages et les rencontres qui vous ont le plus marqué au cours de cette vie qu'il faut bien qualifier de vie d'aventurier ? Parce que c'était ça, quand même.
Ce qui était intéressant à l'époque, c'était que quand j'ai rencontré Pierre et qu'il m'a proposé de partir avec lui à l'autre bout du monde, faire des reportages, j'étais particulièrement peu voyageur, c'est-à-dire que j'étais plutôt un rat de bibliothèque, un intellectuel sédentaire,
oui.
et j'avais cette idée qu'on a souvent les intellectuels, les plus beaux voyages se font dans la tête,
voilà.
en lisant.
Voilà.
Donc si vous voulez, quand il m'a proposé ça, j'avais à peine dépassé l'Espagne, et je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même le premier reportage qu'on a fait, c'est-à-dire la série de reportages qu'on a fait, qui était une série sur les derniers nomades dans le monde. Et donc, pendant un an, comme ça, on a vécu avec des nomades aux quatre coins de la Terre qui voyageaient encore, qui n'avaient pas de point fixe. Alors, du jour au lendemain...
Quand vous dites les quatre coins de la Terre, c'est par exemple quel pays ?
Je me suis retrouvé à la frontière birmane avec des nomades de la mer qui vivaient sur leur bateau. Après, j'étais au pôle Nord avec les Esquimaux qui vivaient dans leur tente sur la banquise. Après, je me suis retrouvé avec les pygmées au fond de la forêt centrafricaine. Après, dans les steppes mongoles, avec des éleveurs de rennes. Après, dans le désert du Sahara, avec les Touaregs. Et puis, on avait fini avec les gitans, les tziganes, en Bulgarie, Roumanie et tous les pays de l'Est. Donc, si vous voulez, pendant un an, après avoir été encore une fois un grand sédentaire, j'ai dû m'adapter à une vie vraiment d'aventurier, une vie de l'extrême, parce que quand on était dans les steppes mongoles et que l'hiver arrivait, je peux vous dire, c'était quelque chose.
En plus, j'imagine.
Je m'étais cassé une dent, il me manquait une dent devant, comme ça.
Et pas de dentiste à 1000 km à la ronde.
Pas de dentiste, et c'était drôle, parce que quand j'avais vu la tête des éleveurs de rennes, j'avais tendance à rigoler, parce qu'ils avaient des têtes très burinées. Mais très vite, c'est eux qui rigolaient de ma tête sans dents. C'était moi le pire.
Et puis alors, Jean-Christophe Granger, vous n'étiez que deux, le photographe et vous. Donc, est-ce que vous avez connu des moments où vous vous êtes dit « Ah, là, le retour est peut-être compromis ».
Ah oui, souvent.
Vous vous êtes fait des erreurs.
Je voudrais insister sur un point technique.
Lequel ?
C'était pas numérique à l'époque, la photo.
Ah oui.
Donc, on se baladait avec des valises qui pesaient 50 kilos chacune.
De matos.
De matos, de balcards, de projecteurs, de trucs, de pellicules. Donc, si vous voulez, c'était sportif et on ne pouvait pas dire qu'on était très mobile quand même avec nos grosses valises.
Mais il ne s'agissait pas pour vous de légender des photos. Vous teniez, j'imagine, un véritable carnet de voyage.
Oui. Un carnet de voyage qui a ensuite nourri mes romans, parce oui. qu'évidemment j'avais... Alors j'ai fait des grands voyages comme ça de l'extrême, mais j'ai eu l'occasion aussi par exemple de travailler sur la violence aux États-Unis, donc j'ai eu l'occasion de tirer au pistolet, des choses comme ça que j'ai faites moi vraiment, et qui ont donné un grain particulier à mes livres, parce que j'ai pu vivre des émotions fortes, des choses que je raconte dans mes livres et que j'ai vraiment vécu. C'est pas de l'imaginaire, vous voyez, la technique pour armer un pistolet, toutes ces petites choses-là, par mes reportages.
Il a fallu apprendre sur
le
terrain.
Ou même voir des vrais cadavres,
ouais.
Ce genre de choses. La plupart des écrivains l'imaginent. Mais moi, quand je travaillais sur la guerre des gangs aux États-Unis, on voyait des cadavres toutes les nuits. Donc j'ai eu cette expérience vraiment de vie intense.
Mais quelle aubaine
pour un futur écrivain d'avoir cette vie d'aventurier. Je me permets de préciser que déjà à cette époque, je voulais être écrivain. Donc j'ai quand même fait tous ces reportages en collectant, en mémorisant tout ce qui m'arrivait, en me disant, il n'y a aucun doute, tout ça va me servir un jour.
Ouais, vous êtes fait en réalité une banque de données.
Exactement.
C'est ça.
Une banque de données qui, jusqu'il n'y a pas encore très longtemps, me servait à plein. tous mes premiers romans ont toujours été inspirés de reportages que j'avais faits ou de pays que j'avais connus, ce genre de choses.
Ces voyages, c'est vous qui les financiez avec Pierre Perrin ?
Oui, alors quand je raconte mes reportages, tout le monde nous dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que vous deviez avoir peur au fin fond de la forêt, etc. » Et je leur réponds toujours « La grande peur qu'on avait, c'est de rater le reportage et de revenir sans un sou. » Parce qu'on produisait nous-mêmes nos reportages, on les vendait après au magazine, mais sans filet. C'est-à-dire que si on ratait le reportage, ben c'était tant pis pour nous.
Rater donc, un reportage, c'est quoi ?
Eh ben, à ne pas avoir les photos, c'est très simple. Si vous voulez, si vous allez faire
là,
les pygmées
dans la
forêt... Vous êtes en train
de me dire que les photos sont plus importantes, les images plus importantes
absolument.
Que les textes.
Absolument. À cette époque-là, les photos étaient primordiales. On travaillait pour des magazines photos. Quand vous travaillez pour Paris Match, il vous faut absolument des très belles photos de ce que vous avez vu. Vous voyez, on était vraiment à 70% centré sur la photo.
Mais vous avez remporté des prix, le prix Reuters, le prix World Press. Donc vous formiez un sacré duo avec
oui,
le photographe
mais pas tout
Pierre
à fait,
Perrin.
Encore une fois, parce que ces prix étaient plutôt, comment dirais-je, par exemple, le prix World Press, c'est un prix de photo. Donc c'est Pierre Perrin qui a gagné le prix. Moi, je l'ai accompagné. On a fait un magnifique sujet dans des régions interdites de Chine où les gens pêchent avec des cormorans dressés. Et Pierre avait fait des photos sublissimes, à moitié dans l'eau et sur l'eau. Et il a eu le World Press grâce à ça.
Et vous
et
faisiez
moi,
le cadre avec
voilà,
les textes.
Voilà, moi j'étais dans la barque, il faisait froid, je grelottais, je prenais des notes. J'ai beaucoup pris de notes à cette époque-là.
Et puis, un jour, Jean-Christophe Granger, ben voilà, vous avez une révélation. Vous êtes dans un avion, pendant le vol, il faut s'occuper bien sûr, vous ouvrez un livre. Il est de James Ellroy. Il a pour titre « Lune sanglante ». Vous avalez les pages avec avidité et cette révélation, elle libère en quelque sorte votre vocation rentrée, c'est ça ?
Absolument.
Vous dites « il est temps ».
Vous êtes bien renseigné. « Lune sanglante », absolument, de James Ellroy, qui m'a beaucoup frappé parce que ce livre, encore une fois, m'a aspiré complètement. Je ne pensais plus à quelle page j'étais, je ne pensais plus si j'étais proche de la fin ou pas. J'étais dedans et je retrouvais une nervosité, un rythme que j'avais connu jusqu'alors que au cinéma. Moi,
ouais.
J'adorais le cinéma policier à l'époque, mais je ne m'intéressais pas à la littérature policière que je pensais être vulgaire. Et là, avec ce livre, je retrouvais ces sensations, vous savez, de poursuite de voitures, de mitraillage qu'on a dans les films policiers. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire, je ne soupçonnais pas qu'avec les mots, on pouvait arriver à avoir une telle violence,
ouais.
Une telle force, une telle nervosité. Et de ce jour-là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et c'était une coïncidence intéressante dans ma vie, parce que parallèlement, ma vie était devenue celle un peu d'un aventurier. Donc j'avais justement ce matériau très musclé, très nerveux à portée de main. Donc j'ai dit, je vais y arriver.
Et comme vous avez fait un reportage sur la migration des cigognes, eh bien la migration des cigognes est devenue le prétexte, en fait, de votre premier thriller, paru en 94, dans lequel vraiment toutes les bases de votre univers horrifique, comme disent les Américains, était posé. Mais alors, je voudrais savoir, un écrivain se souvient toute sa vie de la toute première phrase du premier livre ?
Je pense qu'un écrivain, en tout cas moi, je me souviendrai toute ma vie de la difficulté que j'ai eue pour écrire mon premier livre et le trac et l'angoisse et le stress parce que je ne savais pas ce que valait ce que j'écrivais. Si
oui,
vous voulez,
si ce serait publié.
Chaque phrase, vous vous dites, est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que je devrais en mettre une autre ? Faut pas croire que le premier livre, vous êtes là sûr de vous à avoir l'inspiration divine. Hein. Pas du tout. Je me disais, bon, il y a déjà beaucoup de polars sur le marché, mais si j'arrive à écrire un livre super violent, terrifique, sur fond de migration de cigognes, je tiens quelque chose.
Voilà, je mêle
j'ai quelque
beaucoup
chose d'original.
De choses. Voilà,
j'ai quelque
exactement.
Chose d'original.
Alors, effectivement, ça a été un succès. Et puis alors, avec les rivières pourpres, là, triomphe planétaire, vous avez imposé votre signature dans le monde entier. Ce thriller, d'ailleurs, sera porté au cinéma par Mathieu Kassovitz, qui dirigera Jean Reno et Vincent Cassel. Et puis, ce sera même adapté à la télé sur France 2, avec Olivier Marchal. Mais j'ai relevé, Jean-Christophe Granger, j'ai relevé dans une interview que vous avez donnée à la presse il y a à peu près 3 ans, un curieux constat. Vous disiez, quand il a fallu adapter mes romans au cinéma, je n'ai eu que des galères. Il a fallu que je m'accommode d'un milliard de contraintes, de compromis, d'un travail collaboratif très difficile. Quand c'est pas le fric, c'est la météo. Quand c'est pas la météo, c'est l'acteur. Au final, au cinéma, on n'a jamais ce qu'on veut. Mais quel procès ?
Alors, je pense que tous les auteurs vous le diront, et puis même chaque corps de métier, si
ah,
vous
je
ne
l'ai jamais lu d'une manière
non,
aussi
parce que,
claire.
Il y a une règle un petit peu, de la langue de bois, par exemple, vous savez, quand tous les acteurs, les réalisateurs sont interviewés pour la promotion d'un film, alors c'est le monde des bisounours. Ça a été le meilleur film qu'ils ont jamais fait. Tout le monde s'est entendu parfaitement. Je peux vous dire qu'en général, un film, c'est tout à fait le contraire. Rien ne se passe comme prévu, tout le monde s'engueule.
Oui.
Et à la fin, quand vous avez un film, c'est presque un coup de chance. Donc le problème du cinéma, c'est qu'il y a trop de gens qui ont voix au chapitre. C'est un travail d'équipe, mais un travail d'équipe fait avec des gens qui ont un ego énorme et qui ne sont pas du tout faits pour s'unir. Donc chacun a ses idées, on arrive à des compromis qui sont bons, en plus, toujours avec cette énorme question de l'argent. Après, comme je vous l'avais dit, il y a des histoires de météo, des histoires de technique, ça va jamais. Non, alors, moi qui connais bien maintenant le métier du cinéma, je peux vous dire que je bénis le ciel de travailler tout seul, tranquillement, chez moi, avec mon petit ordinateur.
Oui, mais tout de même, puisque tous vos livres ont été adaptés à l'écran, il y a bien un tournage qui a trouvé grâce à vos yeux.
Ah bah le tournage merveilleux, c'était le tournage des Rivières pourpres, parce que, alors, il y a une expression que le monde du cinéma adore,
c'est
l'alignement des planètes. Ça veut dire, ça exprime bien ce que ça veut dire, que souvent pour faire un film, en effet, il faut que tout s'aligne, c'est-à-dire le bon scénario, le bon casting, l'argent pour faire tout ça, un réalisateur, bref, il faut pas mal de choses qui doivent être sur le même chemin.
Ouais.
Et Les Rivières pourpres, ça a été vraiment ça. J'ai d'abord fait un best-seller qui a été tout de suite acheté par un grand producteur qui lui a réussi à attirer Mathieu Kassovitz, qui était un réalisateur à l'époque hyper convoité.
Exactement.
Grâce à ça et grâce à mon livre aussi, parce que les acteurs l'ont lu, Jean Reno a suivi, Cassel, évidemment, Kassovitz, ouais. Reno, il était très heureux d'être dans l'histoire. Et finalement, on a fait assez rapidement, parce qu'un an après l'apparition du livre, on était en tournage, on a pu faire Les Rivières pourpres avec de gros moyens, et j'ai pu avoir ce bonheur quand même, alors indicible, de voir mon livre se mettre en image, s'incarner avec des acteurs dans les glaciers des Alpes. C'était une période, je vous dirais pas que j'étais heureux, parce que vous êtes abasourdi, vous comprenez pas vraiment ce qui vous arrive.
Voilà, vous êtes presque dans la sidération.
Oui,
bonheur.
C'est une sidération parce que les choses arrivent, elles vous semblent presque naturelles. De temps en temps, vous vous pincez, vous vous dites est-ce que je rêve pas ? Et tout ça, j'ai souvenir que tout ça m'est arrivé dans un espèce de flou artistique. Oui.
On retrouve tout de suite Jean-Christophe Granger.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Il ne faut pas rater le nouveau Jean-Christophe Granger, Les Promises, qui paraît chez Albin Michel. Cher Jean-Christophe Granger, ça vous contrarie, ça vous agace, ou ça vous indiffère que les Inroc, Libé ou Le Monde n'écrivent pas de papier sur vous ?
Oh, ça m'indiffère parce que je les comprends. Moi, j'ai été journaliste, donc je sais bien qu'on doit, comment dirais-je, suivre un peu la ligne éditoriale de son magazine. Et puis, vous savez, c'est une affaire commerciale, là, le journaliste. Donc, vous devez toujours tenir compte de votre public. C'est là, peut-être, que j'ai un petit reproche à faire à ces gens-là.
Ouais.
Parce que, vous savez, il ne faut pas être un dieu en mathématiques pour comprendre que, vu le nombre de livres que je vends, il doit bien y avoir...
Plus de 20 millions.
Il doit bien
je
y avoir quelques lecteurs
présent.
Du Monde et quelques lecteurs du Télérama qui apprécient Granger quand même. Donc c'est là où il y a un peu de snobisme de ne pas parler d'un quasiment un phénomène si important, parce que sans prétention, il est évident quand même que je touche un tas de couches sociales et de profils intellectuels différents. Donc fatalement, il y a beaucoup de gens qui lisent Les Inrocs ou qui lisent Le Monde, qui lisent aussi Granger. Donc, c'est presque une faute journalistique
voilà,
de ne pas en
parler. Et avec ironie, vous êtes surnommé l'homme invisible.
Je suis l'homme invisible.
Pour ces gens-là.
Écoutez, ça fait presque 25 ans que je suis là, que je suis toujours numéro un, que j'écris des livres que tout le monde connaît. Eh bien, je ne pense pas que Télérama ait écrit une fois une ligne sur moi. Faut
Mais
le
est-ce
faire.
Que... L'intelligentsia française se tient en tête du peloton qui considère que les thrillers sont de la sous-littérature, à votre avis ? C'est comme ça en Angleterre,
alors,
aux États-Unis ou pas ?
Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais vous savez, c'est étrange parce que c'est quand même un snobisme assez presque parisien, parce que plus personne pense aujourd'hui que les thrillers ou les romans policiers sont de la sous-littérature. Tout le monde sait que tout le monde en lit et que c'est pas du tout une littérature honteuse. Mais au moment de faire des papiers, au moment de parler des gens, alors ce qui a énormément joué contre moi aussi,
c'est
le succès. Parce que les journalistes considèrent
ça
quand même...
difficilement.
Je ne dirais pas que c'est ça, je dirais qu'ils considèrent que leur boulot est de faire connaître des gens, et non pas de parler de gens bon, qui de toute façon sont lus, vendus, connus. Je dis ça, mais c'est faux, parce que Houellebecq, qui vend beaucoup plus que moi, il est plébiscité à chaque fois. Voilà. C'est donc, vous savez, les articles, comment dirais-je, c'est comme un peu ces livres que vous achetez pour faire bien. C'est-à-dire, c'est des livres, c'est pas vous qui les lisez, c'est eux qui vous lisent. C'est-à-dire, si vous comprenez pas le Goncourt, c'est pas que le Goncourt est mauvais, c'est que vous, vous êtes un imbécile. Vous
Alors,
comprenez ?
Revenons au genre que vous défendez avec tant de virtuosité. Ce genre de roman noir infusé par le mal qui brise les destins, eh bien, il est né en France, hein, pas en Angleterre, pas aux États-Unis. Eugène Sue a écrit Les Mystères de Paris en 1840. Mais selon vous, Jean-Christophe Granger, le vrai premier roman d'horreur, il est né sous la plume de qui ?
Oh, on peut dire, sans se tromper, d'Edgar Poe.
C'est Edgar Poe.
C'est Edgar Poe qui a commencé à vraiment consacrer une plume de qualité à des histoires qui étaient horrifiques. Alors, parfois fantastiques, parfois policières. Et alors, pour le policier, après, on peut dire aussi Sherlock Holmes, Conan Doyle.
Ouais.
Mais c'est quand même la grande référence, c'est Edgar Poe. Parce qu'avec ses nouvelles, il a touché tous les genres de ce grand domaine qui est la peur, disons.
Ce qui caractérise notre société occidentale actuelle, c'est son refus d'admettre que la vie est un risque. J'imagine que le principe de précaution qui régit absolument tout dans nos sociétés dites civilisées doit agacer au plus haut point l'auteur de thriller que vous êtes, non ?
Ne me chauffez pas sur ce thème.
Ah tiens, je sens que j'ai mis en lumière quelque chose d'important.
Je suis consterné, mais même désespéré de l'état actuel de nos sociétés, qui a oublié quand même que, à force de plus prendre aucun risque, certes on vit, mais ça devient une espèce d'eau tiède qui n'a plus aucun intérêt. Ah ça, moi, écoutez, je suis totalement contre tout ce qui se passe en ce moment, toutes les lois, tous les règlements qui limitent les risques. Mais vous savez, je vais conseiller à la sécurité routière un bon conseil. Interdisez la voiture.
Ne descendez plus de votre lit.
On n'aura plus jamais d'accident de voiture, ça sera génial. Et à l'époque du Covid, j'ai été fou furieux des mesures de. J'avais fait même un petit texte pour ma fille. Elle avait un texte à faire parodique qui imitait Voltaire. Je lui ai dit, bouge pas, je te le fais. Et j'ai fait sur le confinement et sur le Covid. Parce que c'était sûr que enfermer tout le monde chez soi, c'était le meilleur moyen de ne plus avoir aucune pandémie, aucun. Mais c'était le meilleur moyen de ne plus rien avoir du tout.
Mais on oublie que tout simplement, vivre tue.
Mais c'est l'essence même de la vie. Il faut quand même arrêter d'être... Et puis si vous voulez, alors il y a une chose qui me choque terriblement dans l'histoire humaine, c'est les va-et-vient entre des points de vue totalement absurdes, et aussi absurdes d'un côté comme de l'autre. Par exemple, il y a encore 50 ans, on envoyait des millions de mecs à la guerre, c'était normal, tout le monde mourait, c'était normal. Maintenant, alors, il y a 10 personnes à l'hôpital, le monde s'arrête. Écoutez, faut être cohérent.
À vaincre sans péril, hein, on triomphe sans gloire. Alors
Exactement.
Ça, c'est le prolongement de ça.
Exactement.
Alors, revenons à votre nouveau roman, Jean-Christophe Granger, Les Promises, qui paraît chez Albin Michel. On sort comment de l'écriture haletante et serrée de 653 pages, qu'on ne lâche pas, hein, mais qui sont imbibées de sang, de torture et d'épouvante? On en sort comment?
Écoutez, je vais me contredire, parce qu'en réalité, quand j'ai commencé Les Promises, c'était le début du confinement. D'ailleurs, je devais aller à Berlin pour faire quelques repérages, je n'ai pas pu y aller. Je me suis donc enfermé dans mon bureau avec toute ma documentation et je me suis plongé dans ce Berlin des années 30. Et honnêtement, alors évidemment, il y a une partie horrifique, mais je suis surtout, j'ai surtout été exalté par ce travail, parce que ce qui me faisait peur, c'est-à-dire le travail surtout de détail dans le roman historique, vous savez, le héros prend un stylo, alors c'était un stylo plume, un stylo à billes, est-ce que ça existait ?
On ne vous pardonne pas une erreur.
Le moindre détail demande un travail de recherche. Et je pensais que ça serait très fastidieux, et en fait ça a été passionnant. Et j'espère que justement ce travail va passionner les lecteurs, parce que moi j'aime bien surprendre mon lecteur, j'aime bien trouver toujours des petites histoires à lui raconter qui le maintiennent en éveil. Et là, grâce au passé, grâce à cette recherche sur tous les petits détails oubliés ou inconnus, je pense que mon livre a une espèce de matériau très vif, très intéressant tout le temps, au-delà de l'histoire policière. Donc
alors,
j'étais très content.
Annette Viviorca, qui est une grande historienne spécialiste de la Shoah et de l'histoire du peuple juif au XXe siècle, Annette Viviorca a écrit que votre roman était, je cite, « incroyablement juste sur le nazisme ».
Quand même.
Jean-Christophe Granger.
J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais demandé à Albin Michel, puisque j'étais pas sûr de moi quand même sur la véracité historique, de voir s'il n'avait pas un spécialiste de cette époque-là, édité chez Albin, qui pourrait relire mon livre.
Ouais.
Ils ont trouvé Annette Viviorca. elle l'a lu, et non seulement
mais
elle a
donc,
dit...
Mais pendant la lecture, vous deviez ne pas emmener large.
Ah bah, vous savez, j'étais comme dans le couloir quand on attend l'oral du bac. Et si vous voulez, non seulement elle n'a pas vu d'anachronisme, elle n'a vu aucune erreur, donc j'avais vraiment une bonne note, mais en plus, elle a dit « c'est un roman formidable ». Donc, ça a été... Là, je me suis dit, je suis béni des dieux sur ce livre parce que j'arrive sur un domaine que je ne connais pas, où je suis tout à fait nouveau, le roman historique, et j'ai un peu la bénédiction de, vraiment d'une grande voix, une grande voix.
À quel âge accepterez-vous que votre plus jeune fils, qui est franco-japonais, plonge dans vos récits ?
Ah, écoutez, j'ai... Avant lui, j'ai une petite fille qui a 13 ans et demi. Il faut attendre, je crois, 16 ans, 16, 17 ans.
16, 17 ans.
Je pense. Hein. Mais vous savez, mes autres grands, il y avait une situation contradictoire. Ils étaient les seuls de leur classe à ne pas avoir lu mes livres. Alors,
Mais ils se sont rattrapés hein, depuis. Ah oui, parce que alors... votre fils aîné, il assure, par exemple, depuis quelques années, je crois, la production artistique d'adaptation, justement, de vos romans à la télé. Par exemple, pour France 2, Les Rivières Pourpres, en série avec Olivier Marchal. Donc, c'est presque devenu une affaire de famille.
Absolument, ça a été une de mes plus grandes joies et un événement qui m'a beaucoup touché, c'est que maintenant Louis, il est producteur à part entière et notamment, il dirige toute la production artistique des Rivières Pourpres.
Ouais.
Et quand même, un jour, je lui dis, tu sais mon loulou, quand j'écrivais Les Rivières Pourpres, tu jouais sous mon bureau avec tes cubes, quand même. C'est quelque chose. Le passage de relais est très, très émouvant.
juste avant, hélas, de nous quitter, cher Jean-Christophe Granger, j'ai appris que vous appreniez le japonais, parce que votre plus jeune fils a une maman qui est japonaise. C'est pas la langue la plus simple. Hein. Vous en êtes où ? Vous maniez comment le japonais ?
Vous me faites plaisir de me parler de mon apprentissage parallèle, parce que tout en écrivant Les Promises, quand même, une heure par jour, je fais du japonais avec différents professeurs. Et écoutez, alors, j'ai décidé de parler japonais, surtout par amour du Japon, pour pouvoir parler là-bas et mieux pénétrer cette culture et mieux parler avec mes amis là-bas.
Mais vous étiez allé au Japon et vous avez d'ailleurs écrit sur le Japon.
Très souvent, même avant le Covid, j'y vivais même plus qu'un tiers de mon année. Mais au tout départ, j'ai appris pour parler avec mon fils qui parle français et japonais. Mais maintenant, alors il parle tellement français qu'on n'a pas d'occasion de parler japonais tous les deux. Et puis vous savez, il va à l'école française, donc maintenant il parle, comment dirais-je, il parle français, il me sort des fois des expressions trop marrantes de petits garçons qui parlent vraiment français. Donc mon japonais, je le garde pour là-bas, et j'en suis que je parle tout à fait pour les conversations, et j'ai attaqué l'écriture qui est alors beaucoup beaucoup plus difficile. Curieusement, parler, c'est pas une langue si difficile que ça. D'abord, il n'y a pas d'accent. Si vous prononcez avec l'accent français, tout le monde vous comprend. Il
n'y
a pas un véritable accent, si vous voulez. Mais l'écriture, alors
c'est plus facile que le mandarin.
Ah oui, rien à voir. Il n'y a
rien
pas des intonations, des modulations que si vous vous trompez d'un demi-ton,
c'est
plus personne ne comprend ce que vous dites.
C'est ça.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En revanche, l'écriture, alors là, bonjour. Il y a trois alphabets différents, quatre même, dont un qui se scinde en deux. Enfin, c'est terrible.
Bon, qu'a-t-on oublié de se dire, Jean-Christophe Granger, alors que Les Promises, qui paraît chez Albin Michel, trônent dans les vitrines de toutes les grandes et bonnes librairies ?
Écoutez, moi j'ai un souhait simple dans la vie, c'est que mes lecteurs soient aspirés, comme je l'ai été jadis par les romans policiers des autres, aspirés par ce que j'écris et aspirés par mon histoire. Et ce que je peux dire, pour faire un peu de publicité, c'est que pour l'instant, tous les retours que j'ai de mes amis, de mes lecteurs, c'est qu'ils sont en effet aspirés et que ce gros bouquin, les gens en général le dévorent en trois jours.
Ils
sont totalement pris par Berlin, par ses personnages, par cette histoire. Et le côté historique, donc cette tentative que j'ai faite de plonger les gens dans un Berlin disparu, celui de 39, sans me lancer des fleurs, je pense que j'ai réussi ce pari. Et tout le monde me dit on se croirait à Berlin de l'époque.
Eh ben, je vous remercie infiniment pour cette balade trop courte,
une heure,
ça ne suffit pas. Et puis je vous dis à très,
merci beaucoup.
Bientôt.
Merci beaucoup.
Les Promises chez Albin Michel, à ne pas rater.